Sur la dernière expérimentation, enfin cette démarche qui est encore à l'écran, est-ce que vous pensez que la sociologie, peut-être particulière, je ne sais pas, des agriculteurs du plateau de Saclay et plus généralement de l'Île-de-France, a son importance dans cette démarche, ou est-ce que vous pensez qu'elle est exportable partout en France, quelle que soit la physionomie des terres agricoles et des modes d'exploitation de terres agricoles qui sont très très variés?
Alors, il y a deux éléments de réponse. La première, je pense que la sociologie de base francilienne était plutôt défavorable à ce type d'approche. Dans le sens où l'agriculture francilienne s'est quand même très fortement spécialisée sur les grandes cultures conventionnelles ces dernières décennies, et où du coup, de facto, on est arrivé dans des logiques d'exploitation qui sont assez individualistes, où chacun est maître chez lui avec son ou ses deux salariés et gère son truc tout seul et gère son système avec les filières internationales, etc. Il y a bien sûr des exceptions, comme on a témoigné tout à l'heure Manuel, etc. Mais la typologie générale, c'est quand même celle-ci. Et ce qui est intéressant sur nos territoires, que ce soit le plateau Saclay ou la plaine de Versailles dont a parlé Manuel, c'est que si on prend au début des années 2000, le plateau Saclay, c'est exactement la moyenne francilienne. C'est-à-dire qu'on a 86% en grande culture conventionnelle, avec quelques gars, ici et là, qui ont tenté des trucs un peu alternatifs. Et du coup, ce qu'on voit ici, c'est que c'est possible, en grosso modo 15 ans, avec un groupe d'agriculteurs qui est typique dans la moyenne francilienne un peu de base, d'arriver à, je ne dirais pas un changement de positionnement complet, parce qu'ils restent encore dans ces modes d'exploitation pour certains, et ils sont très clairs sur le fait qu'ils vont rester, mais à une prise de conscience, en tout cas sur certains sujets, où ils se rendent compte qu'il y a vraiment des choses à faire, et ils sont prêts à faire un certain nombre de choses. Après, cette évolution, elle ne se fait pas toute seule. Elle se fait bien sûr parce qu'il y a un changement quand même global dans nos sociétés qui met la pression à tout le monde, et ça s'applique partout. Mais cette pression générale, elle peut trouver des exutoires positifs si elle est justement facilitée. Et là, c'est sûr qu'on a un contexte qui est quand même très spécifique avec ces 20% de la recherche française, avec des collectivités qu'il ne faut pas se cacher, ont quand même sensiblement plus de moyens qu'ailleurs en France, avec sans doute un niveau de formation, etc., qui est sans doute un peu différent d'ailleurs en France. Mais aussi cette dimension d'animation territoriale, de lien entre les acteurs, etc., qui est essentielle pour que la mayonnaise prenne à un moment et qu'on arrive justement à joindre ces intérêts des uns et des autres. Mais je pense que c'est, au fond, c'est plus une question d'attitude. Et je pense que du coup, du peu que j'ai vu de la liste d'émargement, je pense que vous avez tous un rôle à jouer dans ces questions-là, de par les différents postes que vous occupez. Parce qu'en fait, c'est Manuel, il n'a pas changé de métier, et pourtant il facilite aujourd'hui la démarche. Camille, elle n'a pas changé de métier. Et en fait, c'est plus parce que chacun, on fait l'effort de dépasser un petit peu le rôle qui nous est assigné par principe dans notre institution pour se dire que comment ça marche dans l'ensemble, qu'au final ça marche.
Juste un petit complément, on a une chance sur notre territoire, c'est que ce que je disais au début, c'est sur la zéro artificialisation nette, c'est qu'on a bloqué le foncier est bloqué. Donc aujourd'hui, un agriculteur, il ne se dit pas pour ma retraite, je vais urbaniser ces hectares-là. C'est mort. D'abord, il s'est battu contre l'urbanisation, donc il s'est battu pour les 2300 hectares protégés. Je ne peux pas faire machine arrière. Et pareil sur la plaine de Versailles, quand on est dans la perspective du château de Versailles, où ça fait 40 ans que le décret n'a pas bougé. Ah bon, ce qui n'est pas vrai quand on va un peu plus loin, quand on va au bout de la plaine de Versailles, là on a des agriculteurs qui sont très compliqués parce qu'ils peuvent être dans des stratégies qui à certains moments sont de se dire bon, quand même, si l'agriculture ça part en couille, moi quand même je vais plutôt bien m'en tirer parce que je vais avoir un petit lotissement. Donc on a cette chance là et je crois qu'on aurait, voilà, le plateau ne serait pas sanctuarisé, on n'aurait pas cette dynamique là parce qu'il y aurait toujours des francs-tireurs, des...
Vous citiez un chiffre là, sur la situation de l'agriculture, la part de l'agriculture conventionnelle en 2000, je ne sais pas quoi, comment ça a évolué?
Alors nous, on évolue, désolé, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais on évolue clairement vers une diversification des exploitations. Ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique au plateau de Saclay. Hein. L'Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France l'année dernière, il y avait le constat unanime que l'avenir, c'est la diversification, qui peut prendre des formes très diverses. Hein. La diversification sur le plateau de Saclay, c'est la compostière d'Emmanuel Leroux qui fait de la matière organique, mais c'est aussi la ferme de Villetin qui fait une grande cueillette et des produits laitiers qui vont dans l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis, c'est Serge Coussins qui fait un projet en agroécologie où il a 30 habitants d'Ini qui viennent qui viennent l'aider à récolter. Donc, c'est cette diversité.
La ferme de Galie, c'est le cas extrême.
Et la ferme de Galie. Enfin, voilà, c'est cette diversité de diversification. C'est pas un modèle, la diversification. Par contre, clairement, il y a une tendance très générale vers le fait, grosso modo, de reconstruire des liens. Après, c'est la politique agricole commune, grosso modo, a transformé les exploitants agricoles qui étaient les maîtres du rural, qui étaient les maîtres politiques, les maîtres en termes d'emploi, les maîtres en termes économiques, etc., en des producteurs de matières premières. Donc du coup, c'est un petit peu étrange aujourd'hui qu'on s'étonne de dire bah, les agriculteurs n'ont rien à faire de l'environnement, alors qu'en fait, on a transformé les agriculteurs en des producteurs de matières premières pour une industrie qui récupère toute la valeur ajoutée d'ailleurs. Et là, en fait, ce qu'on propose à travers ces modèles-là, c'est de leur dire bah, reprenez votre place sur les territoires. Et bien sûr, quand ils reprennent leur place sur les territoires, bien sûr, tout de suite, ils se sentent plus concernés. Parce que quand vous avez 500 personnes qui défilent à la ferme tous les mercredis et qui vous demandent vous êtes en bio, vous êtes en bio, vous êtes en bio, vous êtes en bio, le plus féru, etc., et à un moment, il va se poser des questions. Et peut-être qu'il ne va pas passer en bio parce que c'est trop compliqué et que des fois, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça va le faire réfléchir sur ce que les gens attendent. Alors qu'avant, s'il va baigner à la COP deux fois par an, bah, il n'entend que ce que lui disent les gens de la COP.
Alors, j'avais une question sur... Oui. En fait, je ne comprends pas comment ça fonctionne, cette histoire de compensation carbone. Excusez-moi, moi, j'ai l'impression que, voilà, quand on prend l'avion et qu'on veut compenser cette émission, on peut planter trois arbres quelque part. Alors, vous, c'est pas ce que vous faites, donc qu'est-ce que vous faites,
en fait, en fait... Alors, d'une part, on essaye de ne pas travailler que sur la compensation, parce que si vous voulez faire des choses bien, il faut, c'est la stratégie, les trajectoires ERC, donc il y a éviter, réduire, compenser. Et c'est pour ça que je parlais de la sensibilisation des agriculteurs, de tous les travaux sur les bilans à gaz à effet de serre, parce que le premier travail, c'est d'essayer d'éviter, etc.
Mais après, la demande de
après, sur la compensation. Sur la compensation, parce qu'on sait très bien que malgré tous les efforts qu'on va faire, on n'arrivera pas à être tous individuellement neutres en carbone dans nos pratiques collectives en 2050, parce que simplement, on ne sait pas faire. Dès qu'on fait un truc, ça crée du carbone. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un reste, au final, où il faut s'arranger pour que ce reste, au final, soit positif. Il s'avère qu'en agriculture, avec les trajectoires qu'on a eues ces dernières décennies, on a déstocké énormément de carbone dans les sols. On a des taux de stockage du carbone dans les sols qui sont largement inférieurs aujourd'hui au niveau national à ce qu'ils étaient il y a 30-40 ans. Donc on sait qu'on a là une possibilité de restocker du carbone. Donc il y a beaucoup de choses dans, la stratégie, dans les stratégies de compensation carbone en agriculture qui vont chercher à restocker du carbone dans les sols. Après, vous avez d'autres possibilités d'action qui sont de dire des opérateurs économiques qui de toute façon ne bougeraient pas et qui continueraient à émettre plein de carbone, si on arrive à les inciter financièrement à mettre en place des stratégies qui font qu'ils émettent moins de carbone, bah on a gagné des émissions de carbone. Et du coup, en encourageant ces changements de comportement, qui peuvent être générés par des apports financiers, au final, on a moins de carbone, et donc du coup, ça peut compenser le fait que nous, on continue à en émettre un petit peu à côté. Donc il y a vraiment ces deux possibilités, c'est soit le stockage, quelque part, et en agriculture, c'est beaucoup dans les sols, ou dans la biomasse, quand on parle de haies, etc., ou alors des stratégies qui vont permettre à un acteur de moins émettre de carbone dans ses pratiques quotidiennes.
Et refaire des haies, planter des arbres, tout ça, ici c'est très difficile parce que
et ben, figurez-vous,
ça va pas bien avec les modes d'exploitation, ça bougie les drains.
Et ben, figurez-vous Pierre qu'il y a 3 ans, on se faisait jeter dans les réunions agriculteurs dès qu'on en parlait.
Je me souviens de ça.
Et là, on est en train de lancer une étude où j'ai 50% des exploitants du plateau, et pas les petits, hein, Vitin, Trubuil, de la Lande sur Manille qui partent, et on a un expert qui nous accompagne là-dessus, qui a bossé 15 ans en chambre d'agriculture, qui bosse sur le ministère, et donc du coup on a 50% des exploitations du plateau qui sont en train très sérieusement de considérer le faire.
Ah ouais. Ça rapporte de la biodiversité aussi, enfin ça contribue.
Alors c'est ça, ça m'amène aussi à une question qu'on n'a pas évoquée, mais qui est très importante sur le plateau, c'est la biodiversité. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là, où est-ce qu'on en est, parce que là il y a un gros sujet.
Il y a pas mal de projets de recherche.
On a surtout beaucoup de projets de compensation, parce qu'effectivement, le durcissement de la réglementation sur les compensations de biodiversité, au départ, par exemple sur Satory, donc sur 50 hectares de champs de manœuvre, bien sûr, comme l'armée n'avait plus de moyens pour payer l'essence, bah, les trous de char sont remplis d'eau, une jolie vie qui s'y est développée, plus des prairies sèches, mais en même temps, un projet qu'on ne voulait pas dense au départ, qu'on veut toujours pas dense et qui ne sera pas dense, et on s'est dit, bah, finalement, ces espaces de nature, ils vont être compensés à la fin. On s'est dit, c'est bon, on est neutre, on n'a pas besoin de compensation extérieure, sauf peut-être 1 ou 2 hectares. Manque de peau, quand on fait la dépollution, on nettoie tout pendant 150 hectares et on compense, on recrée au bout des 15 ans. Et donc là, la DRIE nous a dit, non, il faut compenser avant. Donc là, on est à la recherche aujourd'hui de 40 hectares où on pourrait installer effectivement soit des prairies sèches, soit des milieux humides. Hein, on a différentes demandes, alors après, de savoir quel type de prairies sèches, quel type de milieux humides, et sur lequel on aura à la fois le coût d'investissement, mais surtout le coût de gestion, parce qu'aujourd'hui, trouver des financements pour installer des haies, pour réinstaller des milieux, on les trouve auprès de l'agence de l'eau, on les trouve auprès d'un certain nombre d'acteurs. En revanche, financer la gestion, et vous savez que les collectivités, leur grande frayeur, c'est le fonctionnement, là, on a des financements sur 40 ans en matière de compensation. Par contre, effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas encore versé dans notre communauté de recherche, se dire, parce que la réglementation aujourd'hui, elle est quand même pas... pas clair, et nous on a des séances d'explication avec les papes et la Drieux pour se dire mais alors il vous faut quoi? Dites-nous précisément, c'est n'importe quelle prairie sèche, sur milieu acide, sur milieu basique, voilà, quelles sont les sous-catégories? Est-ce que des améliorations de prairies sèches qui existent mais qui sont en train de se fermer, parce qu'on en a beaucoup sur le territoire, et comme toute prairie sèche a tendance à se fermer, est-ce que des mesures d'entretien seraient aussi éligibles? Donc voilà, donc ça fait partie des. Oui, la biodiversité, elle vient naturellement, et puis derrière, on a toutes les associations qui sont... Voilà.
Avec le Basque, que tout à l'heure, là, vous avez fait des choses... Alors, parce que...
Avec Basque, il y a eu des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché, mais ça, je pense que c'est très intéressant. Les choses qui ont très bien marché, il y a Emmanuel Baudry, notamment, qui travaille pas mal avec Paul Lelay, et qui a travaillé sur un peu un suivi de la biodiversité sur l'ensemble du territoire, avec des caractérisations du coup, des niveaux de pollution dans les mares, etc., et du coup, avec les impacts agricoles, mais pas que, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des... Oui, bah, clairement, les mares complètement ouvertes à côté des champs qui sont conventionnels, il y a des fois on a des impacts qui ne sont pas hyper sympas. Par contre, il y a aussi des mares qui sont dans des contextes quasiment similaires où on a juste une haie autour de la mare, et tout d'un coup, bah, la pollution agricole est plus si importante que ça, et par contre, on va avoir des pollutions hydrocarbures qui sont beaucoup plus liées aux dimensions urbaines du plateau de Saclay qui vont être prédominantes. Donc ça c'est intéressant parce que ça ne dédouane pas complètement la responsabilité de certaines pratiques agricoles. Par contre, ça montre que sur nos territoires périurbains, les questions de pollution et d'impact de la pollution, ils sont loin d'être que agricoles, et que surtout, même les pollutions qui sont liées aux pratiques agricoles, on a quand même, si on travaille intelligemment, un certain nombre de moyens de les maîtriser, de les amoindrir, etc. Après, il y a un autre exemple qui est, et ça c'est assez intéressant, c'est que pendant longtemps les agriculteurs disaient « Ouais, moi c'est vraiment très pénible sur le plateau, j'ai plein de pigeons et tout. » Et pendant longtemps les gens rigolaient un peu en disant « Bah oui, d'accord, des pigeons, c'est pas bien grave. » On a pris ça assez au sérieux et du coup il y a des travaux scientifiques qui ont été menés. Et dans les interactions avec les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a certains semis sur lesquels les agriculteurs perdaient 50 à des fois 80% en agriculture biologique de leur semis. Et les graines que les animaux préfèrent, et que les pigeons et les corneilles préfèrent, c'est les légumineuses. Sauf que dès que vous voulez avoir des cycles qui sont un petit peu vertueux, justement, en termes de captation de l'azote, etc., vous devez planter des légumineuses. Et donc, du coup, en fait, en milieu périurbain, aujourd'hui, de par le développement des populations de corneilles et pigeons, principalement les corneilles, qui ont atteint des proportions complètement disproportionnées, d'une part, en termes de biodiversité, ça pose des problèmes vraiment structurels, parce qu'en fait, ces oiseaux-là, qui sont des oiseaux urbains, occupent les niches écologiques des autres espèces d'oiseaux qui existaient avant, et du coup vampirisent les habitats des autres espèces d'oiseaux, et en plus créent des impossibilités structurelles dans certains fonctionnements de pratiques agroécologiques. Et du coup, ça c'est super intéressant. Alors du coup, on est allé un petit peu plus loin, on a lancé un projet de recherche pour essayer de caractériser ces impacts, etc., et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour répondre. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un peu le contre-exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure, où on a une chercheuse qui est persuadée que la réponse, c'est le développement des rapaces et des renards, ce qui est peut-être pas faux, mais le problème, c'est qu'elle en est tellement persuadée qu'elle n'accepte pas que les agriculteurs pensent que c'est pas vrai, et du coup, il y en a un dialogue de sourds, où elle continue à monter des projets de recherche qui sont centrés exclusivement sur la réintroduction des renards et des rapaces, et les agriculteurs qui lui disent « Non mais moi, c'est pas mon problème, c'est que je me fais bouffer 80% de ma récolte par les pigeons, et je crois pas au fait que votre rapace va résoudre quoi que ce soit. » Bon, je pense qu'on va quand même, au final, réussir à avancer un petit peu, mais en fait, ça montre que c'est vraiment une question de positionnement et d'ouverture d'esprit, souvent, dans ces questions.
Je peux vous citer aussi un autre exemple qui date d'il y a quelques années, c'est donc des essais qui sont sur le parc de Versailles, sur lesquels nos collègues ont mis en comparaison des modes culturaux différents. Donc ils ont 4 parcelles, un bio, un traditionnel, un intensif, et puis un où on ne retourne pas et on garde le couvert, etc. Et en fait, en les faisant depuis 20 ans comme ça. Et donc du coup, il y a aussi une étude de l'évolution de la biodiversité dans le sol, l'évolution des populations de lombriques, etc., dans ces sols-là qui sont conditionnés finalement par du bio, par de l'intensif, par le machin, depuis 20 ans. Ce qui leur permet maintenant de tester certaines semences, et en disant par exemple des semences spécifiques bio qui sont vendues pour ça, en disant ça c'est top pour le bio mais c'est pas bon pour l'intensif, ça leur permet de vérifier si c'est vrai ou pas.
Très bien, je vous propose de remercier.